peu.
Voilà. Donc, ça va
avoir l'air.
Quel pied! Oh putain! Oh là 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 là!
Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Ta mère en short, l'émission qui vous parle de sport. Pour éclairer vos lampes torches 2.0 du 21e siècle, vous retrouverez aujourd'hui Deuz, alias Damien Ski, la star NBA de l'antenne de Principe Actif, et Philippe Guinchard, notre spécialiste d'Heure Info, La Dépêche. Bonjour à vous, messieurs.
Bonjour.
Salut.
Alors aujourd'hui, pas d'invité, oui, ça arrive, mais une belle et longue page consacrée à l'ALM Basket, des résultats des clubs locaux, évidemment. Et avant ça, on va commencer par un petit tour de table sur ce qui a retenu notre attention en matière de sport cette semaine. Deux, je vous propose de commencer, si vous aviez des choses à dire, peut-être.
Alors, bah ouais, on recevait la semaine dernière l'association Breaker, qui faisait part belle au breakdance de manière locale, puisque c'est une association très active sur le territoire hébroïcien. Et on avait des fondus, des mordus hein, de breakdance, et ils nous évoquaient que samedi dernier, donc bah là, 29 novembre, il y a deux jours, se déroulait le Red Bull BC One, qui est donc la finale, le rendez-vous des 16 meilleurs danseurs de manière individuelle, parce qu'après on peut avoir des battles et des combats de break en collectif et en chorégraphie. Là, en l'occurrence, c'était en mode solo. Et c'est un Hollandais, Meno, qui l'a emporté. Et en fait, voilà, j'ai pu revoir en image correctement ce championnat qui est juste incroyable, de voir le physique que peuvent avoir ces jeunes gens et les démantibulations. Bref, une souplesse hors du commun et des coups de épaule, ongles, nez, nuque qui sont mis à rude épreuve. C'est quand même assez magique de voir ce qu'on peut faire avec le corps humain. En tout cas, c'était très chouette et ça avait l'air d'envoyer du bois.
Et la petite cerise sur le pudding, c'est qu'il y avait Joey Starr à l'animation du battle.
Ce qui n'enlève à rien, puisque c'est vrai que c'est tellement un ambianceur que ça devait être plutôt pas mal. Ça avait lieu à Bercy, je crois.
Et j'ai vu ça ce week-end, ils en ont parlé sur Stade 2 hier à la télé. Donc,
tant mieux.
Voilà, ouais, c'est un peu.
Tant mieux.
C'est une bonne reconnaissance.
Ouais, voilà. Mmh. C'était assez sympa qu'ils en parlent sur le service public.
Voilà ce qui m'a retenu.
Philippe ?
Pas grand chose, on va dire. Peut-être la défaite de Toulouse à domicile en rugby, là, j'ai vu, qui m'a fait gagner un petit peu d'argent. Je remise rarement, mais je me suis amusé à miser tous les matchs à l'extérieur et ça m'a rapporté un petit peu. Et puis peut-être aussi le 3-0 hier soir de Saint-Étienne devant Lyon, là, qui fait une sorte de passation de pouvoir avec, je dirais, une sorte de reconnaissance de plus en plus marquée pour le travail de Galtier. Voilà, c'est à peu près tout.
C'est plutôt pas mal d'ailleurs pour Saint-Étienne, qui n'avait pas mis plus de deux buts depuis 3 mois, je
ouais,
crois.
Ça fait longtemps.
Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas mis plusieurs buts. Tu parlais de football, le roi Pelé qui nous rappelle que la vie est éphémère. Alors il n'a pas encore glissé comme on dit, mais voilà, il est en soins intensifs du côté du Brésil. Donc voilà, sûrement une des légendes du football qui va bientôt nous quitter. Voilà, pensez un peu à ce grand monsieur du foot.
On pensait que 2014 allait être l'année du Brésil avec la Coupe du Monde et et voilà, une sorte de d'apothéose, et ça risque d'être vraiment un naufrage, je dirais, au final, ouais, s'il venait à partir rapidement.
Mauvaise année pour eux. Tu parlais de rugby, autre chose qui nous rappelle que c'est éphémère, et notamment en matière de sport, encore plus en matière de sport. Castres, vainqueur du top 14 en 2013, finaliste l'année dernière en 2014, et cette année, qui occupe la dernière place du classement. On a un peu la même chose en foot allemand, ce sera là mon dernier point, avec Dortmund, qui avait été finaliste, eux, de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, il y a 2 ans, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient à chaque fois deuxième, bon, évidemment derrière le Bayern, parce que c'est hors concours, et qui, cette année, occupe également la dernière place de Bundesliga.
Malgré un super public,
ouais.
C'est ça qui est fort, hein. c'est comme quoi un public ne fait pas tout. Hein.
Et puis une qualification aussi acquise en Ligue des Champions, mais en championnat, c'est la catastrophe.
C'est la cata.
Un peu voilà. Monaco, quoi.
À l'image de Monaco, ouais. Très bien. Autre chose à rajouter sur ce premier tour de table ?
Si on reste au niveau national, non. Au niveau local, il y a pas mal de choses à rajouter, mais je pense qu'on va y venir après.
Il y a des choses à dire.
On se fait une petite pause musicale et puis on discute de sport local. Pardon. Qu'a-t-on écouté, la mideuse ?
Santa Claus is Coming de Jackson 5, qui est sorti en 1973. Et puis, bah, c'est vrai que c'est le mois de nono, hein, ouais. Le mois de décembre. Donc voilà, un petit clin d'œil. 1973 de Jackson 5.
Très bien. On passe aux résultats locaux, si ça vous va bien.
Je vous en prie.
Vous voulez que je commence ? Les filles de l'EVB 27 ont perdu 3-7 à 2 contre Mougins en championnat. Et j'ai été voir le classement élite poule B. Évreux est 5e, c'est une poule à 10 équipes, donc ils sont pile à la moitié avec 17 points.
Voilà, c'est pas bon, hein, parce que c'est pas bon pour elles, parce qu'elles, en fait, c'était le match qu'il fallait gagner pour faire partie. Le but est d'être dans les 3 premiers à la fin de la première phase. Mougins est en premier juste avant. Elles mènent 2-0. Elles mènent 11-6 dans le 5e set. Et elles perdent. Elles prennent un point. Ouais, elles craquent après la pause. Il y a une pause de 15 minutes qui leur a cassé les pattes, je pense. Et puis, elles jouaient au centre omnisport. Donc, c'est pas vraiment leur salle habituelle. Bon, voilà. Enfin, bref, elles étaient bien parties, en tous les cas. Donc, c'est pas ça qui a forcément posé problème. Sauf qu'elles perdent à l'arrivée. Un match qu'elle devait gagner pour justement rester dans le top 3, et si elles si elles ne font pas quelques grosses performances dans la deuxième partie de saison, elle risque de stagner.
C'est après un bon début de saison quand même,
hein, c'est oui, dommage. Oui, ouais, enfin, le jeu du bal à se mettre en place quand même, hein, ouais. Tous ceux qui les observent, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Bon, c'est vrai qu'on a été habitué aussi à voir Manu Fouché pendant très longtemps œuvrer, donc il y a peut-être une autre façon de coacher que ceux qui apprennent à avoir du volley de haut niveau ne comprennent pas forcément. Mais en tout cas, c'est en construction complète, en reconstruction, et là pour l'instant ça tarde à vraiment à être au niveau annoncé, en tout cas.
L'intérêt d'être dans les trois premiers ?
Alors, les trois premiers, c'est que tu rencontres les trois premiers de l'autre poule, la poule A après. Les matchs que tu as disputés dans la phase 1 restent acquis, c'est-à-dire que tous les matchs que tu joueras contre les deux autres équipes qui seraient dans les trois premiers ne seront pas rejoués. Et en face, tu rejoues six matchs après, donc contre le 1, 2 et 3 de la poule A. Et au terme de ça, c'est là où il décidera les deux montées. Quoi. Donc,
les deux finalistes, les, du coup, ouais. Ou les deux premiers ? Ouais,
c'est les deux premiers.
Ouais.
Mais donc là, je pense que là, on risque de pas être dans le top 3 de la poule B.
Mince.
Ouais. Ils
se sont donné 2 ans pour monter, donc on peut dire voilà que c'est pas très grave qu'ils travaillent pour l'avenir. Et c'est il y a du monde, hein, ça reste cohérent. Il y a un public qui répond présent. Maintenant voilà, il va falloir structurer et puis repartir de l'avant.
Du côté de la National 3 de l'ALM Basket, on a eu un petit texto qui va bien de Jeff, le coach de la National 3 de basket de l'ALM. et aussi de l'OAC Basket en féminine en excellence région. Défaite malheureusement en National 3, 81 à 53 contre la Buissière, équipe très forte du Nord, et ce qui amène l'équipe de N3 à être relégable, malheureusement, au moment où nous parlons. Par contre, à l'opposé, victoire 53-37 chez les filles, donc en excellence région contre Aplemont.
Belle perf.
Elles sont toujours à la première place et le coach est content de souligner qu'elles n'ont encaissé que 7 points en deuxième mi-temps. Donc une défense de fer qui a dû leur
aider. Incroyable,
ouais.
incroyable.
C'est très peu en 7 points en deuxième mi-temps.
Le seul problème, c'est que l'an passé, à la fois Évreux comme l'autre club d'Évreux, Netreville, avaient la possibilité de monter et ils ne sont pas montés parce qu'ils n'ont pas le budget, enfin, ils n'ont pas les aides. Donc on est en train peut-être d'assister à un championnat qui ne vaut que pour de la régionale et qui restera au niveau régional, parce que je pense que même s'ils arrivent à être premières à la fin de la saison, elles ne seront pas forcément.
Ouais,
c'est un peu triste.
Malheureux.
Et dans ces cas-là, très naïvement, l'idée d'une fusion, c'est complètement saugrenu, et ça permet d'augmenter les budgets.
Est possible.
Voilà. Mais... après ce qu'on a vécu au foot, on veut dire que tout est possible, parce que
tout le monde
a cru que le serpent de mer se mordrait la queue jusqu'à vitam aeternam. En fait, là, ça c'est arrivé à un moment à fonctionner. Donc, on peut espérer qu'un jour, Évreux n'est qu'un seul club et qu'on puisse aller au-delà. Pour l'instant, on va dire que les conditions ne sont pas réunies. C'est bien que je peux dire ça, non?
Ça
fait un petit air de Bruno Le Maire, non? Là, quand je dis ça,
c'est bien. Ou d'un joueur de foot classique au sortir d'une rencontre et qui répond de manière bateau à tous les journalistes. D'accord. C'est pas mal.
Merci. J'apprends beaucoup. C'est le contact.
C'est bizarre.
Contact de mes pairs.
Ça me fait une belle transition pour parler de club de foot et confusionner justement le FC 27 en division d'honneur. Match nul à domicile, 2-2 face à Oissel. Ils sont toujours premiers au classement, 3 points d'avance devant Rouen, donc en division d'honneur.
Le bémol, c'est que là, en fait, Rouen ayant un match en retard, Rouen est peut potentiellement reprendre la première place. Ouais. Alors là, c'est une petite contre-perf qui, c'est pas terrible, mais enfin, c'est pas gravissime, mais il faut rester au niveau. Il va falloir qu'ils essaient de garder Rouen à distance, et là, pour l'instant, ça va être un peu tendu.
Du côté du handball Saint-Sébastien Sport, on rappelle, hein, mesdames et messieurs, dames, vous découvrez ta mère en short aujourd'hui. C'était les premiers à ouvrir le bal de ces associations que nous avons envie de recevoir et de mettre en lumière. Saint-Séand, c'est de la pré-nationale. Et il joue en Coupe de France, en fait, ce week-end. Alors, belle victoire 36-26, donc plus des buts à Verneuil, sur Ave en Coupe de France. Match sympa dans une belle ambiance et une salle pleine, nous dit le coach Anthony Morel. On a fait l'écart d'entrée dans une première mi-temps très sérieuse, 21-13 à la pause. Beaucoup d'échecs au tir en seconde période dû à une légitime déconcentration. Tout le monde a joué et plutôt bien. On a bien géré la transition entre deux journées de championnat. Voilà, il est ravi, il est content.
On peut penser en plus ça que c'était vraiment un match qui assurait d'ailleurs la promotion du hand dans l'heure, parce que Saint-Sébastien, mine de rien, c'est devenu le plus grand club de l'heure.
Carrément.
Hein. Ah non, de l'heure, non, je rigole, de la région, parce qu'il y a quand même Vernon devant, mais ils ont une sorte de vecteur de communication qu'ils essaient de porter. Et puis là, justement, je pense qu'il a fait jouer tout le monde. Il a pas essayé de ridiculiser l'équipe de Vernon. Ils ont fait une petite fête du basket à l'occasion d'un match de Coupe de France. C'est plutôt sympa.
Fête de hand, ouais.
Du hand, j'ai dit quoi, du basket. Ah, je suis à fond dans le basket.
C'est bien. Voilà de mon côté.
On a parlé hors micro de la lourde défaite de l'EAC Rugby.
Oula,
Philippe. Ah oui,
je pense que Kylian,
Philippe,
d'ailleurs,
tu peux nous en dire quelques mots.
On lit le communiqué. Ah, et après, tu reviens sur le sujet.
Ah, d'accord. Vas-y.
Petit communiqué de presse sur l'EAC Rugby. Dimanche 30 novembre, en se déplaçant chez le leader invaincu Drancy, les Hébroïciens avaient le secret espoir de ramener un petit point. Cela n'a pas été le cas. La faute à Drancy qui a attaqué le match pied au plancher. En deuxième période, devant une équipe physiquement plus forte, Évreux a sorti la tête de l'eau pour marquer tout de même 3 essais. Résultat final, 64 à 19. L'équipe 2 a bien que battu 33 à 3, a montré des choses intéressantes pour l'avenir. Tant mieux. Bon. 64 à 19, tu nous disais, peut-être pas loin de 54-57-0 à la mi-temps?
74, je crois même, c'est, je crois, non.
Ah, bah écoute, là, 64, le résultat final.
Il y avait 10 essais, je crois, 10 essais inscrits pour Drancy. 7 en première période, 54-0, je crois, au départ.
Aïe.
54-7. Une boucherie, mais c'est bizarre que vous n'avez pas eu Yvonne au téléphone?
Non, on l'a pas eu, pas trop.
Est-ce que vous croyez qu'il se cache, non?
Non.
Non, il se cache pas, il est pas du style à se cacher.
Non, il se cache.
Je crois que ça devait être son retour, normalement, ça devait être dans son retour au sein de l'équipe. peut le féliciter quand même à l'antenne. Très bon retour.
Bon, l'essentiel dans ce genre de, avec ce genre de résultat, c'est qu'il n'y a pas de blessé.
Ouais, c'est vrai. C'est très politique aussi, ça. Non, on n'a pas ramené de blessé. On a juste ramené une grosse doudoune et voilà, on est prêt pour l'hiver.
Bah, c'était une grosse écurie en face. C'est quand même le leader du championnat avec des internationaux XY. Bon, effectivement, des fois, ils sont japonais ou coréens dans le rugby.
Il y a une belle école de rugby à Drancy, parce qu'on les a joués il y a 2 ans et c'est un truc sympa. Il y a même des joueurs d'Evreux qui sont allés jouer là-bas. C'est un club structuré, sympa, qui vaut certainement de la Fédérale 2 d'ailleurs. Bah, nous, le truc qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on vaut toujours la Fédérale 3? Et bon, on a prouvé sur les 2 derniers matchs, par le résultat qu'on était au niveau au moins des mal classés. Maintenant, il faut être devant eux à la fin de la saison pour y rester. Mais voilà, c'est difficile, hein, c'est très difficile. Ils ont changé même un petit peu de politique à Évreux. Là, ils ont mis un petit peu d'argent, eux qui avant, à part les bons corins, ils ne donnaient rien du tout quoi aux joueurs. Et bah, même ça ne suffit pas forcément, parce qu'on n'a pas de, bah, il n'y a pas de d'universitaires qui arrivent, il n'y a pas de grands renforts, de possibilités de proposer des projets à des gens qui viendraient renforcer le rugby du coin. Donc on fait un peu à la fortune du pot avec une bonne école de jeunes, et puis voilà, on espère que ça va tenir encore un peu. Ça nous fait plaisir, parce que c'est vraiment des bons gars et c'est vraiment un club très sympa. Mais voilà,
ça c'est limite parfois,
mais quand même une sacrée branlée quand même.
Ah bah ouais, c'est 64 points en fait, c'est tout simplement sûrement 10 essais, mais tous n'ont pas été transformés.
Ouais, mais je crois
64 hein, moi je pense pas qu'ils soient plantés, les résultats sont tout le temps.
Moi j'ai vu 74 et je crois que je l'ai vu sur le Parisien aussi, donc je vérifierai.
On vérifiera.
J'ai pas vu la feuille de
quoi. Ouais, je crois qu'on
leur fait cadeau de 10 points.
Ouais, à ce niveau là
c'est les copains.
C'est pour Kevin.
C'est pour Brice,
ouais.
Petite pause musicale, si ça vous bien.
Mais écoute-là, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre est d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son taux de mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine. Ses théories sont consanguines, parle de flingue, de carabine. Défend une France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de Gorée s'enlèchent les babines. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance. Elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres. Elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante. Et heureusement elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée. Une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.
La Canaille, album sorti cette année, là, il y a quelques mois, avec le morceau Jamais nationale. Page LM Basket, messieurs, c'est votre rayon, votre spécialité. Là où vous êtes,
notre passion.
Là où vous êtes sans doute les meilleurs.
Merci.
Toi, tu étais à la salle, Philippe, tu vas plus tu vas pouvoir développer. Voilà,
donc... Tu étais où, toi, Damien?
J'étais pas là. Voilà, donc c'est dit, c'est
quand
fait.
Quand te chante un bon anniversaire
ou ouais, non, merci. 75-66, victoire de la LM Évreux, mais pénible.
Oh non, on peut pas dire ça. Horrible, on va dire.
Ah, ouais. D'accord, ouais, carrément. Horrible.
Bah, troisième purge, hein. J'ai vécu, ça fait troisième dosette. Là,
quasiment enchaîné.
Ah oui, bah, troisième enchaîné.
Ouais, parce que
Orchi partout, on va dire, c'était nul.
Le Portel,
c'était
la déconfiture.
Ouais, déconfiture. Alors, je vous raconterai tout à l'heure la vision du coach adverse et même de celle de Rémi Valin qui est, effectivement, on préférait pointer l'adresse exceptionnelle ce jour-là du Portel, mais avec, ils ont eu une adresse exceptionnelle parce qu'on les a laissés avoir une adresse exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a rien fait pour casser, on n'a pas fait de faute, on n'a rien fait pour les empêcher d'avoir cette adresse-là. Et puis là, on rencontre quand même le dernier qui a une équipe de N1, ni plus ni moins, qui a été repêché par la force des choses, qui se bat avec ses armes, mais bon, c'est pas bon. Il n'y a pas un gros fond de jeu. Il y a un petit meneur qui est censé quand même être moins fort que Causé et qui lui a mené la vie dure tout le temps. T'as un ailier Pratt là qui a bien tenu la dragée haute à l'équipe d'Evreux, qui a pu un peu trop jouer selon mon goût. Et puis surtout des intérieurs qui étaient un peu pataux, voilà. Et puis malgré ça, on passe devant assez, je dirais en deuxième période, mais on assure la victoire que dans les deux dernières minutes, quoi. Donc c'est quand même assez, moi je dis, c'est vraiment des genres de victoires qui sont assez inquiétantes.
Ouais, parce qu'ils étaient à une victoire, tu l'as dit que c'était dernier au classement, une victoire, cette défaite, Charleville-Mézières.
Ils se sont accrocheurs, hein, ouais. Ils lâchent rarement devant les autres équipes, mais c'est pas une belle équipe, hein, franchement.
Alors, moi j'ai halluciné, on prend 17 points dans le premier quart-temps, donc effectivement c'est une entame de match quelque peu... poussive de la LM Évreux. Je pense qu'en défense on n'y est pas. On notera que Gentig a priori chope deux fautes très rapidement,
ouais.
Ce qui me faisait moi voir quand même entre les lignes, je regardais quand même, je suivais le live texte en vrai les gars, sur lnb.fr, qui est mieux foutu que par le passé, il est plus intéressant et bien foutu.
Il devait être content tes invités.
Un peu. 17-12, Gentig deux fautes rapidement, je vois Babacar Niang et Sambou Traoré qui prennent foison de shoot, je comprends pas. Est-ce que en face c'était les consignes de Rémi Valin? Il y avait une raquette intérieure faible et du coup les gars devaient jouer l'accent, ou est-ce qu'au contraire c'était un peu un trop plein de confiance de la part de nos intérieurs?
Alors je pense qu'effectivement ils avaient peut-être ciblé la raquette parce que normalement ils étaient censés être dominateurs, hein, par rapport à ça, sauf que un des vrais problèmes, je pense, notamment sur ce match-là, c'est que les ballons, quand ils vont à l'intérieur, ils ne ressortent pas. Tigle quand on pensait les ressortir, les autres ne le ressortent pas, et Carignan, qui avait été assez bon lui au portel, notamment en deuxième période parce qu'il n'y avait plus grand chose à perdre. Là, pour le coup, il a vachement abusé du shoot, quoi. Il prenait des tirs qui ne s'imposaient pas, même des tirs qui n'étaient pas du tout dans sa zone de confort, et c'était pas bon, quoi. Pas du tout bon. Sambou, un petit bémol pour lui parce qu'il a pris des shoots extérieurs, c'est pas rentré, voilà. On va dire que c'est plus un jour sans. Mais Babacar Niang a été vraiment à côté de la plaque, je pense, sur ce match.
Basket, c'est incroyable parce que la LM Évreux n'a donc que 12 points dans le premier quart, et dans le deuxième quart-temps, ils en mettent le double, 25 points. Ils emportent du coup ce quart-temps, en fait, ils vont emporter ensuite les trois suivants, mais voilà, 25-24, ce qui nous fait arriver à la mi-temps avec un petit point de retard de mémoire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Précisément, 4 points, pardon. Ouais. 37-41, et puis pour être encore mené à la fin du troisième quart, même si la LM Évreux l'emporte 14-11 et finir à 24-14. À la mi-temps, il y avait dû avoir déjà un peu de sonnette d'alarme, puisqu'au final, on prend que 25 points dans la deuxième mi-temps, alors que la première, on prend 41, mine de rien. Donc en défense, voilà, on peut pas y être, quoi. Ce qui m'a fait surpris aussi, et toi tu as vu la rencontre, c'est Glenn Causé. On arrive des fois, c'est ce meneur US, hein, ami auditeur auditrice, vous entendez parler, il y a déjà eu un réajustement au sein de l'effectif en dehors des blessures, on va développer derrière, mais c'était Marc Sanchez qui a été remplacé par Muldrow. Et puis c'était Glenn Causé, là, qui depuis 15 jours, 3 semaines, bah, on le voyait pas aux passes décisives, on le voyait pas au point marqué, hein, donc à l'adresse ou aux tentatives de shoot, on le voyait pas en meneur sur le terrain, dans le sens noble du terme aussi, emmener ses collègues et ses joueurs à les emmener plus haut. On le voyait pas forcément en défense, et là on le voit prendre des shoots. Moi, à la mi-temps, je crois qu'il avait déjà pris une dizaine de shoots, alors qu'on l'a déjà vu avec un ou deux shoots seulement pris à la mi-temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez Glenn là?
Bon, on l'a pas vu à droite déjà, parce qu'il peut rester dans les pas vus.
6 sur 19.
6 sur 19, non, là je pense qu'il a abusé vraiment beaucoup. Moi, enfin, je suis pas fan.
Je
suis pas fan de ce joueur depuis le début. Effectivement, tu vois qu'il y a du talent. Il y a eu quelques matchs qu'on nous a montré là en vidéo qui sont pas mal au niveau universitaire. Mais là, il a du mal pour l'instant à prendre le pas. Alors, c'est un jeune joueur, hein, faut prendre tout ça en considération. Moi, j'ai du mal aussi humainement à le sentir. Il y a des joueurs qui ont du charisme, d'autres qui en ont pas. Et lui, pour l'instant, il a le charisme d'une huître, on va dire, parce que tu sais pas trop ce qu'il pense, tu sais pas trop comment il est. Quand il dit qu'il est ouvert aux autres, bah franchement, je le vois pas trop. Bon, là, il s'est un peu rapproché du monde, il s'est un peu moins mis à l'écart, mais c'est soi-disant sa façon de se concentrer. Mais je pense que c'est pas ça qui fédère une équipe, quoi. Et puis donc là, il shoot beaucoup. Voilà, bon, il fait des points parce que déjà il est très adroit au lancer franc. Ça c'est un vrai bonus. Par contre, parce qu'on avait souvent des équipes avec beaucoup de déchets au lancer, là c'est pas mal.
Mais il fait 8 sur 8 là pour le coup.
Ouais, 8 sur 8 au lancer, mais bon voilà, à part la feuille là, il y a pas grand chose.
Ah, 6 sur 19, c'est énorme.
Il met 31%. Pas très bien en place. Il essaye, mais là franchement, c'est un match où il devrait être dominant. Or face à Williams, en face qui est un petit meneur, un tout petit format de poche, quoi. Et ben, il est pas du tout, il est pas, voilà, il l'a pas bouffé, hein, pas du tout, hein. Je pense que c'est pour l'instant, ça tarde à être au niveau où Rémi Vallin nous l'a présenté au début de saison. Je pense que même lui, Rémi, doit le sentir, hein, mais bon, bah, pour l'instant, il fait avec, il essaie de composer, il y a pas mal d'autres soucis ailleurs aussi, donc je pense qu'il essaie de
ce qui est surprenant, c'est que du coup, il a quand même joué 35 minutes,
film. Ouais. C'est curieux, parce que je pensais même qu'à un moment, vu que là où avait été très bon à la main au portel, à la fin, je pensais qu'à un moment, il allait vouloir relancer ça, et je pense quelque part, c'est peut-être pas non plus très stabilisateur pour l'équipe, donc il essaie de le faire, il essaie de laisser les joueurs en place. Et puis, on a vu quand même à côté de lui, on a vu le petit cordinier avec qui il s'entend pas mal.
Alors, ouais. Première
ils ont gros, fait, ils ont
premier
fait
gros deux, temps deux, jeu deux de gros
actions.
Ouais.
En fait, le match, on avait lu sur deux actions, un alley-oop merveilleux en première mi-temps de causer justement pour le petit cordinier qui vraiment, il a 17 ans le gamin, et te fait un truc magistral avec vraiment un très bon timing et tout ça. Pour un tir à 3 points derrière, et puis en deuxième mi-temps, pareil, sur une contre-attaque, une beau décalage pour Cordinier qui va planter un dunk sur les têtes des gros ours, en face. Et franchement, c'est bien, tu vois, que le gamin, franchement, c'est une bonne pioche, il a du talent, il a encore plein de trucs à faire, hein, mais c'est vraiment tout à fait dans la lignée de ce qu'on nous a présenté. Il est le patron des U17 ou U18, je sais pas. Donc là, je pense que ça sera le patron des U20 à venir, et il est déjà sous l'œil de certains scouts NBA. Je pense que bon, ça c'est peut-être précoce et prématuré, mais c'est vraiment un gamin vachement intéressant.
Ouais, alors, tous les commentaires, parce qu'il y a des sites qui vont bien.
Il s'entend bien avec Causé, donc c'est pour ça aussi que Causé a beaucoup joué. Il s'entend bien sur le terrain, il s'est bien trouvé.
Ah, il avait fait une belle rencontre, ce jeune joueur là, au portel, malgré la déroute amicaliste, et c'est vrai que c'est la première fois qu'il avait autant de temps de jeu à la LM Évreux à domicile. Bon.
Et là, il fait 23 minutes, il fait 14 points.
14 points, avant le quatrième carton, il était à 100%, il était à 5 sur 5 au shoot et à 2 sur 2 à 3 points. Et ça nous fait une belle rencontre, 14 points, 3 rebonds.
2 triples.
Voilà, 12 dévals, c'est très bien, très très bien.
Ouais, moi j'aime bien. Ouais.
Et puis Gentig, on va finir là-dessus avant de revenir brièvement s'arrêter sur la conférence de presse dont tu
ouais, nous... savoureuse.
Ouais, savoureuse, voilà le terme. Gentig, moi je trouve que ça y est, c'est clair, il s'est établi, hein. S'il n'y a pas son problème de faute, c'est un intérieur dominant dans le championnat. Il finit quand même à 17 déval en 17 minutes de jeu, quelque chose comme ça, je voudrais vérifier. Gentig, 17 minutes de jeu, 14 points, 6 rebonds et 17 dévals. On peut imaginer presque bêtement que c'est la même Eva que Glenn Cosé qui a joué le double en temps. On rappelle les évals, on prend les statistiques individuelles par rapport au temps de jeu, dans chaque rubrique, les shoots pris, machin, réussi, loupé, les interceptions, les lancers francs, tout tralala. Et c'est quand même énorme.
Ben c'est bien. En fait, faut aussi mettre aussi le en rapport avec l'adversaire parce que c'est pas des cadors en face. Mais il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que ça reste assez sobre. Il n'en rajoute pas. Il fait des petites fautes à la con là, notamment sur un repli où il va arrêter. C'est pas lui de le faire. Donc on a fait des petites fautes. Mais sinon, je pense qu'effectivement une fois qu'il aura résolu ça, ça va être un gars qui va être bien, et bah justement c'est bien d'avoir attendu, de pas l'avoir coupé trop tôt et tout ça, parce qu'il a, il donne vraiment satisfaction, et je pense que c'est un bon bosseur et tout, plutôt lui justement plus de charisme que Cosé dans sa façon d'être.
Alors cette conférence d'après-match,
là c'était bien. Parce qu'on dit souvent, on a rencontré des coachs qui étaient très sympas cette saison. T'en avais rencontré
le coach de Rouen.
Coach de Rouen, il y a Fabrice Coursier que j'aime beaucoup aussi, qui a bon, là, il y avait un petit.
Provence, super, Guita aussi. Et Michon aussi.
Et puis, enfin, voilà, Antoine Michon, avec qui on était obligé de le mettre à la porte, sinon, c'est lui qui fermait la salle Omnisport. Et donc, ça, c'était vraiment très sympa. Et là, j'ai découvert Cédric Hayes, qui est le successeur depuis 2 ans de Francis Charneux à Charleville-Mézières. Alors Francis Charneux était spécial, mais alors celui-là il est pas mal non plus.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait on est arrivé, le gars il était assez théâtral sur le bord de touche. Voilà, il a fait 2-3 réflexions. Il s'est pris une technique que je trouve vraiment injuste parce qu'il a juste rappelé à Millau l'arbitre qui a pas été bon. Et les arbitres ont été très mauvais encore. Ils ont été très mauvais contre Évreux en première mi-temps, très mauvais contre Charleville en deuxième. Donc on va dire que ça s'équilibre et que c'est pas ça qui fera la différence. Mais c'est pénible. On voit des siffles des fautes avant qu'il y ait des contacts. Enfin c'est ridicule. Mais donc, ils lui ont sifflé une technique qu'ils n'avaient pas lieu d'être. On pensait qu'il était un peu aigri par rapport à ça, par rapport au fait qu'à un moment, il y a un rebond qui bascule de Constantin, un rebond offensif que Constantin donne avec un coup de poing. Or, normalement, c'est prohibé. On n'a pas le droit de donner un coup de poing dans le ballon. Et puis là, les arbitres ne disent rien. Et il y a 3 points derrière de Cosé qui font la différence. On pensait qu'il allait avoir un petit peu de retenue par rapport à ça, de déception par rapport au fait que son équipe a accroché, mine de rien, pendant 38 minutes à Évreux et qu'à la fin, elle se prend près de 10 points. On a été surpris parce qu'en fait non, il en voulait beaucoup à son équipe de tous ces ballons perdus, 24 ballons perdus. Bah, je dis c'est un peu l'eau d'Évreux aussi depuis cette année. On est à 19 ballons perdus par match, donc toi c'est en moyenne, donc c'est énorme. Donc 24 ballons perdus, donc ça fait 1/4 possessions. Bon ça c'est vrai, une très très mauvaise adresse, ça c'est vrai, mais Évreux était pas beaucoup mieux. Je croyais qu'Évreux gagne avec 38%. Les deux équipes sont à 38% des réussites. Hein. C'est pour dire que c'était quand même une belle purge aussi au niveau de l'adresse. Qui reste quand même un des faits de rendement du basket, mais là c'était pas bon. Et puis on voit donc le gars qui à la fin il s'énerve tout seul. Alors, surtout qu'on lui avait rien dit. Et évidemment il s'est dit mais arrêtez de dire qu'Évreux va mal, arrêtez, Évreux va bien, il a un très bon coach, les joueurs sont bons, il y a un bon projet de jeu, alors arrêtez vos conneries. Mais on lui avait rien dit. Enfin, c'était exceptionnel. Alors, je sais pas, il avait peut-être lu des articles comme quoi ça n'allait pas terrible. Alors, après, il a vanté le match d'Orchy que nous, on a vu. On a vu en vrai le match du Portel auquel on a assisté également. Donc, je connais le basket. Il nous dit, c'est bien. Nous, on le voit un petit peu. On n'est pas des techniciens pour en parler, mais on a quand même un peu de vécu là-dessus. Et voilà, il était à côté de la plaque. Mais alors, on n'a pas pigé. Et on a même, donc, à la fin, on a rigolé en demandant à Rémi Vellin si c'était son nouvel agent. Parce qu'en fait, il a mieux vanté, je dirais, le.
Et c'est le deuxième
talent
à nous faire ça. Parce
mais là, surtout, ce qu'il y avait le côté un peu véhément, là, qui était assez marrant. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi il s'était énervé d'un seul coup, là. Voilà. Bon, je pense qu'il avait dû vouloir évacuer une certaine frustration aussi de son côté parce qu'ils sont passés pas si loin que ça, quoi. Mais c'était surprenant. Voilà. Puis un petit peu théâtral et ça nous a fait rire. Et puis donc, la première partie de la conférence de presse qui était moins drôle, mais un peu plus surprenante, c'est que Rémi Vellin, qui nous avait habitué à être assez lucide par rapport à la prestation de son groupe, là, il nous a fait un peu de méthode couée en disant, c'est plutôt bien, je félicite les gars, ils travaillent bien et tout. Bon. Alors effectivement, il a mis en avant les chiffres, 5e victoire, 4 défaites, donc un bilan plutôt positif malgré les blessés, tout ça. Mais je pense qu'il peut pas ne pas voir l'absence de fond de jeu qu'il y a à l'heure actuelle, le
problème avec son meneur.
Alors, il y a un problème avec le meneur. Alors, Bon, c'est une équipe qui est en construction. Ça, c'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier de là où on est parti l'année d'avant et à prendre que la fin de saison, comme disait Michon, à un moment, avoir le résultat de la fin de saison pour repartir sur les mêmes bases. Et c'est vrai qu'il faut retravailler. Ça on peut entendre, on peut comprendre effectivement que lui soit plus dans la patience. Mais je pense quand même qu'il doit se dire quand même que ce qu'on voit en ce moment, c'est faut à foutre les 10 000 spectateurs dehors, quoi, parce que c'est nul. Enfin, franchement, moi, je m'amuse pas à voir l'équipe jouer à l'heure actuelle. Il y a un peu de défense et encore, c'est pas forcément collectif. Donc il y a des passages.
Ouais, c'est par séquence,
voilà. Et, bof. Ouais. Mais bon, pour l'instant, effectivement, c'est 5-4. Il y a 3 matchs sur lesquels il avait insisté. C'était Charleville qui a gagné. Il y a Lille qui viendra donc dans 10 jours maintenant, parce que là il y a la petite pause Coupe Mickey à laquelle on n'est pas invité, donc ça c'est pas, on ne s'est pas invité, on va dire. Et puis donc il y a Lille et ensuite il y aura Angers. Si tu gagnes ces 3 matchs là, effectivement tu peux passer des fêtes sereinement, quoi.
Affaire à suivre, voilà. On fait une petite pause musicale et puis on repart justement de réajustement, ouais, de blessures, d'arrivée, de transfert, de voilà, on en parle, voilà. Merci, musique.
Around the world in a cardboard box. Now you're waiting for the bus, trying to fit in with the flock. Different socks. On one hand, you got a wild imagination, and the other is a man against the clock. It never stops. We used to look up at the clouds and see shapes. Now the only thing we see in them is rain. It's not the same, 'cause after all the giant dragons disappeared, the only battle left to fight was with your chains. Cut them loose. I liked it better when our dreams were real. Respected what it was to feel. Nobody ever put a limit on the things that made the littlest of kings seem strong enough to cut through steel. Grip the wheel, it's a whiny little road you pay. It's a shame you had to lose that light, 'cause if it wasn't for the blanket fort walls and the bumps in the night, you'd be nothing but a string without a kite. You're not the astronaut you used to be. Ain't it a shame that you couldn't keep the starlight in your eyes? You're not the hero that you used to be. Fading away until you're falling out the sky. Sail around the world in a porcelain tub. Now we fill it to the brim and try to wash away the mud. It isn't us. In one world you got a wide-eyed adventurer, and the other is a person giving up. It never jumps. We used to play connect the dots with the stars. Now we try to make a connection in bars. It's getting hard, 'cause after every little planet's been exploded, it's impossible to find out where you are. I take it home. I miss the feeling of a brand new start. What it meant to be your child at heart. No matter how it was explained, it always felt like if I wanted to, I could have built a city in my own backyard. Disembark. You don't have to be a kid to believe or see potential in a pile of leaves. If it wasn't for them deep sea dives and a whisper from the trees, you'd be nothing but a want without a need. You're not the astronaut you used to be. Ain't it a shame that you couldn't keep the starlight in your eyes? You're not the hero that you used to be. Fading away until you're falling out the sky.
I remember you were stuck in a half-empty cup. You studied the sun like it was meant to touch. Got a clutch, it's not enough to escape like the ducks, 'cause they always come back to the muck. Struggle for a brush with luck so we could judge your guts. Like, you still own that such and such? They could cut the budget, but the puppet struts on two crutches over drums that rush like busted nuts. It's too much now. You wanna strike like the light without the thunder? Wonder what you doing uptown. You delivering none but love, but can't seem to catch a dream when fishing from up above. I don't believe there's a bad bet, 'cause everybody's gonna breathe that last breath. But the things you write got wings for life. It's the freedom flight, that's how we sleep at night.
You're not the astronaut you used to be. Ain't it a shame that you couldn't keep the starlight in your eyes? You're not the hero that you used to be. Fading away until you're falling out the sky.
Greaves, MC de Seattle, poteau du copain Slug d'Atmosphère, d'ailleurs signé sur ce magique label qui est Rhymesayers. Le morceau, c'est quoi déjà?
Astronaute.
Astronaute, voilà, avec Slug d'Atmosphère. Merci.
Pardon, vous vous regardez tous là. Non, bah enchaînez sur le basket, les gars.
On continue. Alors, on a plein de trucs à dire aujourd'hui. On peut s'étaler, t'as vu ça?
On s'allonge.
Là, on a pris place. Hein. Donc du coup, oui, victoire. Non, classement 7e du championnat, ça c'est la LM Évreux. 7e avec 5 victoires, 4 défaites, à égalité d'ailleurs avec Le Portel, hein, qui est mieux armé pourtant au départ. Ouais. Plus en place avec 2-3 grosses individualités. Et puis avec Boulazac, voilà, 5-4. On est dans le premier, pour l'instant, on est dans le top 8. Voilà. Donc c'est quand même pas la cata, avec une équipe toujours pas mise en place, avec des changements et autres. Et puis, bah, c'est pas fini la guigne. Hein. Puisqu'on apprenait, là, en début de semaine dernière, c'est ça?
Ouais.
La blessure, une blessure de fatigue, une blessure de quoi?
Ouais, une fissure de fatigue, en fait.
Une fissure de fatigue.
Qui se détecte que sur un IRM. Et,
de Pierre-Étienne Drouot, hein, précisément.
Pierre-Étienne Drouot, qui revenait très bien, qui a eu un début de saison perturbé par sa blessure contre son ancien club à Angers en pré-saison. 2 mois d'arrêt, le gamin il a eu du mal à revenir, il était bien revenu et puis là il va être obligé de stopper encore pour guérir. Il avait des problèmes d'appui et puis donc effectivement l'IRM a décelé une fissure de fatigue au pied droit.
Faut laisser reposer, ça s'opère pas. Hein.
Non, ça s'opère pas. D'accord. Donc voilà, c'est comme une petite fracture quand même.
Alors du coup, bah, c'est l'énième changement de la saison, parce qu'on rappelle Desmond Quistin Jones, si vous nous rejoignez, ouais, qui avait été transféré cet été, mais en fait, a priori, il était déjà un peu blessé, mais pas validé. Ouais. Enfin bref, un peu bizarre l'histoire, qui du coup est out depuis le début de saison.
Qui risque de pas jouer cette année.
On avait récupéré
Samboutraoré.
Voilà. Alors d'ailleurs, quid de Samboutraoré? Reste-t-il pas?
Bah, je pense que là, on va en venir après, mais je pense que l'arrivée de notre futur pigiste implique plus ou moins que Sambou va le quitter à partir du 30 décembre.
Ouais, parce que Pierre-Étienne Drouot, ils ont fait un choix, l'LM Évreux, ils ont décidé de le remplacer par un numéro 4, alors qu'on rappelle.
Ah, c'est un 3-4.
Ouais, 3-4.
Mais c'est plus un numéro 4.
Mais bon, 2m5. Ouais, voilà, un beau bébé.
Ouais.
Michael Var. Michael Var, on va développer dans quelques instants, mais ce qui est surprenant, c'est que du coup Samboutraoré est pas loin d'être sur le même poste, pas du tout le même pedigree, beaucoup plus jeune, l'ami Var. Samboutraoré, attention, un solide CV, un rempli d'expérience qui nous sauve bien contre d'ailleurs Orchi il y a quelques jours. Mmh. Pas le même pedigree, mais en attendant, ouais, un beau bébé qui déboule à Évreux, étonnant d'ailleurs, presque.
Ce qui est intéressant, c'est on a vu le cas l'an passé avec Boulogne-sur-Mer, parce que Stéphane Brun était arrivé en cours de saison et jouait justement avec Michael Var. D'ailleurs, je sors une photo demain qu'on a retrouvée grâce à Thierry Esnol, notre photographe, qui a trouvé une photo où il y avait Michael Var qui s'apprêtait à contrer Oulu Achaoulu sous l'œil de Stéphane Brun. Et c'est Stéphane Brun qui a pris du temps de jeu au fur et à mesure à Michael Var, qui s'est retrouvé donc à moins jouer. Et puis le club de Boulogne prévoit des petits soucis de budget, donc en fait du coup il avait besoin d'un peu de dégraisser, comme on dit vulgairement, et il a proposé à Michael Var de quitter le club. Donc lui c'est plus un poste 3-4 comme on dit, mais plus un 4 qu'un 3, donc mais il peut jouer quand même, ils peuvent jouer par exemple, on peut avoir une équipe de grands joueurs avec Tig, Sambou et Var par exemple, ça peut être assez sympa, mais par contre ça veut dire Moldon attend encore un peu, ouais. Je pense, et ça veut dire que Rémi Vallin va devoir changer un peu son profil d'équipe. Jouer grand c'est intéressant, mais ça veut dire peut-être moins de mobilité, donc ça va dépendre, il va peut-être s'adapter en fonction des adversaires qu'il aura face à lui, quoi. Mais ça peut être intéressant, parce que justement, là, on a un joueur qui est vraiment polyvalent sur l'axe 3-4.
Ouais. L'année dernière, quand il était venu jouer avec Boulogne à Évreux, 13 points à 60%, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 20 d'évaluation en 22 minutes. Voilà un petit peu Michael Var, ce qu'il vaut. 24 ans. C'est quand même incroyable, parce que on est entre le début de championnat, c'était donc il y a 2 mois et demi,
mm-hmm.
Septembre, octobre, entier novembre, 3 mois, et en fait on a une configuration d'équipe qui n'est
complètement changée,
plus du tout la même. Voilà, on était plutôt sur une équipe jeune avec un solide pivot, Gentil, qui a failli d'ailleurs être coupé, on rappelle l'histoire, mais bon, qui est heureusement encore bien en place, et tant mieux. Voilà, mais on a récupéré pléthore d'intérieurs. Sam Muldrow qui doit prendre le temps encore, mais qui a posé quand même quelques soucis en défense, qui a été là efficace a priori là enfin. Pas trop, encore léger. 13 minutes encore, de jeu, on rappelle, il n'a pas joué depuis 6 mois, ouais.
Je pense qu'il a besoin d'une bonne sudisette encore pour perdre quelques kilos et puis retrouver un peu d'air.
Ça m'a surpris, parce que c'est vrai qu'on imagine que là on a une toute autre ossature de la LM Évreux. Ça me,
Il s'adapte. Bah, je pense que ça prouve justement que l'équipe qui était mise en place au départ n'était pas forcément la bonne, voilà, qui n'aurait pas forcément abouti à ce que Rémi Vallin souhaitait cette saison. On va changer un peu de... Bon, ça reste jeune, hein, parce qu'il est quand même encore jeune. Mickaël Var, il a 25 ans, je crois. Hein, donc il est 24 ans, 25 ans, donc il est encore assez jeune. Il a un dernier match ce soir, d'ailleurs, ceux qui veulent le voir en action, je ne sais pas s'il jouera beaucoup, mais ce soir, il joue à Don Raymond, la fameuse salle anciennement du Portel, que le Portel se partageait avec Boulogne. Et Boulogne, ce soir, reçoit Limoges, donc un beau match. Je crois que c'est sous les caméras de Sport Plus, je crois. Et donc, Mickaël Var fera son dernier match là-bas et ses adieux à Don Raymond, où il a passé deux saisons, dont l'année de la montée l'an passé. Il a participé au match de la montée à Évreux. Hein. Ils ont fêté, Boulogne est venu fêter sa montée à Évreux l'an passé, et il était là. Donc voilà, lui, ça va certainement être un match un peu spécial pour lui. Maintenant, on va voir ce que ça peut apporter au niveau du groupe. Je pense que de toute façon, après ce qu'on a vu là, les trois derniers matchs, ça peut pas forcément être pire. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne recrue. Sur le papier, c'est une très bonne recrue déjà. Je pense que c'est un bon gars, et puis voilà.
C'est ce que j'allais dire. Ouais,
Puis avec le petit Cordinier justement qui fait des merveilles sur les deux derniers matchs en extérieur, bah peut-être qu'effectivement ça peut apporter une stabilité ailleurs, un autre danger, voilà.
C'est pas retransmis, hein, c'est Strasbourg-Nancy Sport Plus ce soir.
Bon, bah donc débrouillez-vous pour y aller.
Mais en tout cas, moi j'y vois presque une plus-value intéressante pour l'ALM Évreux. Donc j'ai imaginé moi que, alors après c'est la gestion financière, je suis pas dans les petits papiers de la comptabilité amicaliste, mais ni jaune ni bleu, mais c'est vrai que j'ai juste à imaginer que cet apport là, ça laisse quand même l'envie toujours de faire quelque chose cette année.
Oui.
Parce que
c'est un bon signe. Ouais.
Je veux dire, si on aurait pu très bien, et ça avait été évoqué sur des forums, voilà, il y a le site officiel de l'ALM Évreux, mais on rappelle qu'il y a evreuxbasket.com qui est bien foutu aussi pour les réactions, puis voilà, il y a des gens qui sont dans les petits papiers de l'ALM, on s'en fout, c'est des avis, des positifs, des négatifs, mais on aurait pu lire, comme je l'ai lu et comme je le pensais moi-même, qu'on aurait pu finir ou attendre le retour de Pierre-Étienne Drouot, voilà, avec le petit Cordinier qui monte en puissance, avec neuf joueurs intéressants tout de même sur le papier, et non, on signe Mickaël Var. Et donc pour moi, c'est vraiment gage d'envie toujours de la part de Rémi Vallin et donc de l'effectif et du staff en général de vouloir faire quelque chose cette saison.
Ouais, je pense que c'est vrai qu'effectivement c'est un bon signe. C'est plus parlant, je dirais, que de faire venir un Courby, éventuellement un Bigot là, qui était proposé par Rouen à un moment. Il y a Lamine Kanté aussi qui était proposé par Limoges. Voilà, donc ils ont plutôt. Je pense qu'effectivement le fait de prendre quelqu'un comme ça qui a un niveau reconnu et qui est quelqu'un qui a participé à une montée de Pro B en Pro A, ça envoie un signe comme quoi effectivement on est toujours avisé le top 4 on va dire au départ. Bon, je pense qu'on n'est pas loin déjà, mais à rester dans le petit des playoffs et voir. Sur une deuxième session, si ça prend forme et puis si ça commence à monter en régime, et pourquoi ne pas effectivement envisager un gros coup en fin de saison. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas tous. Hein,
Là, tu en parlais en préambule, en première partie, c'est que là, ça va être une espèce de pause à Migi Moquet, hein, la fameuse Leaders Cup là, qui va être en stand-by. Donc nous, on ne va pas jouer pendant 3 semaines, 4 semaines.
Tu veux dire
l'ALM championnat.
Là on joue pas, non, on joue le 9 décembre. Il y a deux matchs aller-retour là, il y a un autre match après en décembre, il y a une semaine encore de coupure. Voilà, bon, ça c'est
anecdotique.
C'est les tergiversations de la fameuse ligue, mais
c'est quand, à ton avis, on est lancé en janvier ou février, sinon
ouais,
après
je pense que ça sera au retour, mais le retour va être long parce qu'en fait on va avoir une pause du 30 décembre jusqu'au 20 janvier.
Voilà, ça va être super long, donc
ça veut dire que s'il y a des réaménagements à faire, ça sera les derniers, ça sera à ce moment-là qu'on les fera. Je sais pas si je sais pas à quoi penser le club, mais si on voulait se séparer par exemple de Causer à la Maine, c'est à ce moment-là que ça pouvait se faire. Maintenant, est-ce que le fait de prendre Mickaël Var et de vouloir travailler dans la stabilité, c'est pas forcément non plus la bonne option à prendre, donc on va voir comment ça va évoluer après.
C'est plutôt pas mal.
Le prochain match, c'est le 9, c'est ça ?
Lille.
Ouais.
C'est à domicile ?
Oui. Lille à domicile, normalement avec 4 anciens hébreuxiciens, on a dit 3. Il y avait 3. Non, mais il y a 4 parce qu'il y a 3. Ah non, parce qu'il sera parti, je crois. James Matisse sera parti. Il y avait James Matisse qui est, ça c'est dommage parce que lui, j'aurais bien aimé le revoir parce que c'est un gars qui a marqué vraiment les premières années de Rémi Vallin. C'était vraiment le gars de Rémi Vallin pendant 3 ans. C'était un. C'est peut-être pas celui qui a le plus de talent, mais c'est un de ceux qui avait le plus de cœur. Me rappeler les Bobby Cattage, pour ceux qui ont connu la grande époque, un gars qui se donnait à fond et vraiment qui était adoré.
B.A. Walker.
Donc il y a B.A. Walker, Brian Pamba, bon, qui n'a pas laissé que des grands souvenirs, mais et puis Jean-Victor Traoré, qui lui, par contre, lui est parti. On en reparlera avec de Rémi Vallin, mais je pense qu'il a dit une grosse connerie parce qu'il a notamment dit sur le l'hebdo Basket News que il avait choisi Lille parce que on lui proposait 2 ans de contrat et un rôle majeur, et je pense qu'Evro lui proposait exactement la même chose. Donc j'ai trouvé ça surprenant qu'il s'en aille. Je pense que c'est plutôt une question d'argent qu'une question de contrat ou d'implication. Je suis pas certain d'ailleurs qu'il choisisse de rester longtemps, mais c'est quelqu'un aussi qui a une trentaine d'années, qui a peut-être envie justement d'avancer plus vite que les de rattraper le temps perdu en fait. Hein. Donc voilà. Enfin, en tout cas, ça va être une belle opposition. A priori, ça sera sans Ivan Almeida qui doit être opéré, il se fait retirer, je crois, une petite vis ou je sais pas quoi. Donc eux, c'est un de leurs bons joueurs. Et puis Lille,
leur meilleur rival est quasiment la meilleure rival de Pro B.
C'est certain que ça sera intéressant pour Evreux.
C'est un très beau joueur de basket.
Ouais, exactement.
Et l'année dernière, il était très inconstant. Il pouvait passer à côté d'un match sur l'autre, alors qu'il était capable de tout flinguer sur une rencontre. Mais là, cette année, beaucoup plus de constance et c'est un très beau joueur. Ouais, Capverdien, c'est original aussi comme nationalité.
C'est vrai que sympa.
Dans le milieu.
Et donc, on verra si c'est sans lui. C'est vrai qu'effectivement, ce serait mieux. Mais Lille, c'est une équipe qui peut passer 30 points à son adversaire, comme en prendre 30 aussi. Donc, ça va être. On ne sait pas trop. C'est pas très stable non plus.
Mais c'est un match à emporter. Hein.
Clairement.
Il faut basculer avec ces victoires.
Rien que par rapport aux anciens, pour montrer à ceux qui sont partis qu'ils n'ont pas forcément eu raison.
Voilà,
et puis en plus, il y a un coach qui est très énervant aussi en face, parce que celui-là, Cédric Bineau, là.
Ah, je l'ai eu l'année dernière.
Celui-là, il est dur. C'est un peu ce mec qui a poussé du banc tous les mecs. Dès qu'il est l'adjoint d'un coach, le coach, il doit se faire du bon.
Il a pris leur place,
Il a un costard un peu trop grand pour lui.
Il est râleur,
il est un peu pédant, enfin, il est pas, voilà, pas le
meilleur. On va aiguiser nos micros.
Pour nos auditeurs, on peut rappeler, donc, c'est mardi 9 décembre, le prochain match à domicile, à 20h, à la salle Omnisport.
Ouais, il y a des places à gagner, en venant à Heure Info La Dépêche.
Eh ben voilà, une bonne nouvelle.
Sachez-le.
Demain, le titre, arrêté ou pas?
Oui, il est arrêté, ouais, ça y est, je l'ai.
On ne crie pas trop en disant le titre, parce que le contenu, c'est derrière.
Le titre, c'est « Et dire qu'on doit se contenter de ça ».
Et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Laurent Follat, Dépêche. Monsieur Philippe Guinchard, merci beaucoup, très cher. On se met une petite pause musicale et puis on se donne des rendez-vous. Et puis voilà, on se dira au revoir tout calmement. On a pris le temps sur la LM Evro aujourd'hui et ça fait bien plaisir.
À bientôt, salut.
C'est le Boudos Band. Le morceau s'appelle Burnt Offering. Voilà, c'est des mecs qui tournent avec notamment une partie en tout cas du backing band de Sharon Jones, Lee Field, Menahan Street Band, toute cette clique là qui fait bouger la soul et qui a tous les rendez-vous. J'ai vu qu'il y avait un gros festival avec notamment tous les noms que je viens de vous citer.
Non.
C'était à New York évidemment.
Oh non.
Ça coûtait un peu cher pour y aller. Voilà pour l'aspect musical du jour.
En tout cas, messieurs, dames, nous, on va raccrocher les crampons hein, ce jour, puisque voilà, on est dans le timing exceptionnellement. Première émission sur, depuis le début de la saison, 12e, mais première émission, nous n'avions pas d'association à mettre en lumière. On s'était mal organisé, hein, mea culpa, mais on se rattrape dès la semaine prochaine.
Exactement, la semaine prochaine, on parlera kickboxing avec, nous recevrons donc Gilles Lodz, entraîneur au club Évreux Gym Boxing Club, l'ancien club de kickboxing de Netreville. Voilà, ils ont un peu changé le nom puisqu'ils font aussi de la boxe anglaise, bah, en plus du kick.
Eh ben, c'est lundi prochain, c'est 12h30, 13h30, ta mère en short avec Monsieur Guimauquier et Damien Ski. Bye bye.
Une bonne semaine de sport à vous.
Exactement.
Salut Damien Ski.
Portez-vous bien. Salut Guimauquier, bye bye.